Salut Marty.
Hello Marty.
Salut, comment ça va?
Très bien.
Ça va bien toi?
Ça va super bien.
Marty, je t'ai lancé le défi de m'arriver avec des cibles potentielles pour une potentielle transaction de deuxième centre avec le Canadien de Montréal, parce qu'on entend toujours les mêmes noms. Toujours des noms là, à la Sidney Crosby qui revient dans les discussions, mais il doit y avoir des petites pépites à gauche puis à droite qui traînent, qui pourraient être quand même intéressantes pour le Canadien. As-tu des noms à nous soumettre?
Ouais, ben tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même quelques noms. Là, par contre, c'est sûr qu'il faut, il faut regarder un petit peu la situation du côté des centres dans la LNH. Moi, personnellement, je pense que le marché n'est pas nécessairement là. Cependant, si tu vas voir des options, il y a quand même quelques options à gauche et à droite et tout ça. Donc, je pense que ça vaut la peine de regarder. Sauf que, donc c'est ça, on se prête au jeu, mais disons que je suis quand même confortable avec la situation dans laquelle les Canadiens sont de ne pas nécessairement viser un gros marché, parce que c'est vrai que si tu regardes un peu les options à travers la ligue, il n'y a pas une tonne de joueurs qui sont intéressants.
Non, puis clairement, je pense que le fait de l'augmentation du plafond salarial, les équipes sont un petit peu moins coincées. On peut dépenser un peu plus de sous, on peut conserver un petit peu plus nos joueurs. Alors, on le voit avec un petit temps mort, un petit laxisme présentement sur le marché des transactions. Vas-y avec un premier nom, Marty.
Ouais. Donc, ben, le premier nom que je vais aller, c'est du côté du Kraken de Seattle. Évidemment, ça coûterait quand même assez cher aussi. Là, c'est Matthew Meyer, je pense, que du côté du Kraken de Seattle. Est-ce qu'il est disponible? Ben, pas nécessairement, mais en même temps, je regarde un peu la situation au centre. On a déjà un Chandler Stevenson, on a déjà un Shane Wright qui est là. Tarbert Lee Catton, qui est quand même jeune et qui peut s'amener. On vient de repêcher Jake O'Brien, qui est également un centre dans le repêchage 2025. Donc tout ça, je pense que tout ça, ça aide. Mais là, évidemment, Beigneur, ça fait en sorte que tu peux poser la question, est-ce qu'il est disponible? Est-ce que c'est possible d'aller chercher un joueur de centre comme ça? Et moi, selon moi, Beigneur, c'est peut-être le gars le plus idéal un petit peu pour les Canadiens, dans le sens que c'est justement un deuxième joueur de centre. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu meilleur défensivement. C'est quelqu'un qui est à peu près dans la même, un peu du même gabarit, un petit peu qu'un Nick Suzuki et tout ça, mais quelqu'un qui justement a de bonnes mains, capable d'aller au filet, capable d'aller chercher des retours de lancer, des choses comme ça. Je pense que si tu vas avoir vraiment un deuxième joueur de centre qui est capable de faire beaucoup de bonnes besognes, sans nécessairement avoir le potentiel d'un centre numéro 1, justement, au niveau de l'attaque et tout ça, je pense que Beigneur devient un gars logique.
Puis tu vois un peu le motus operandi de Kent Hughes à travers ça. Quand il a fait l'acquisition de Kirby Dach et d'Alex Newhook, il a visé des joueurs à haut potentiel, d'anciens choix de premier tour, qui avait un petit peu déçu dans les moments précédents. Matthew Beigneur, après avoir gagné le trophée Calder avec sa saison de 57 points, ben, l'année suivante, c'est 37 points. L'année passée, c'est 43 points. Oui, 20 buts, quand même une bonne saison dans l'ensemble, mais on le voit que sa valeur n'est pas nécessairement au top. Et considérant que le Kraken a une abondance de joueurs de centre, ben là, peut-être qu'on serait plus ouvert, justement, à le laisser partir.
Ouais, ben c'est ça exactement, tu sais, à un moment donné, le Kraken de Seattle, si tu regardes la façon qu'on bâtit, puis je me plaindrai certainement pas de ça, je pense qu'au repêchage, c'est la bonne idée d'aller vers le meilleur joueur disponible, sauf qu'à un moment donné, il y a trop de centre, et c'est simplement ça qu'il y a. Donc tu sais, tu regardes au niveau des ailiers, tu regardes au niveau des défenseurs, surtout à droite par exemple, il y a quand même beaucoup de besoins tout ça. Donc est-ce que justement du côté des Canadiens, est-ce qu'on serait capable, puis encore une fois on est dans l'hypothétique, on s'amuse un petit peu, mais est-ce qu'on serait capable d'aller bâtir une espèce de transaction où tu vas chercher justement un Beigneur et compagnie? Ben là, je pense que ça vaut la peine de se poser la question.
Il y a plein du monde qui nous parle de Jaron McCann sur la messagerie texte, parce que pendant qu'on parle du Kraken là, parce qu'il est dans les rumeurs comme quoi on serait peut-être ouvert à l'échanger. McCann, ça serait-tu une bonne prise ça, pour Montréal selon toi?
Ce serait pas mauvais, c'est drôle parce que justement là, dans la chronique, je regardais un petit peu les noms que je vais dévoiler, puis je pense que c'est un peu dans cet horizon-là que tu dois aller. Tu sais, des jeunes joueurs de centre, des jeunes deuxièmes joueurs de centre qui seraient disponibles pour les Canadiens, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc là, je pense que l'option, si tu exclues les Beigneur et compagnie, c'est peut-être de se rabattre justement vers un vétéran. Je pense que Jaron McCann, ce serait pas nécessairement mauvais. Il y a d'autres options, ça dépend comment ça coûterait. Mais ouais, je pense que ce serait pas mauvais nécessairement. Il joue à l'aile du côté de Seattle. Il serait capable d'aller au centre. C'est quand même un gars complet. C'est quand même quelqu'un qui est capable de marquer quand même pas mal de buts, qui est quand même capable d'être assez intense et tout ça. Donc je pense que du côté des Canadiens, ça peut avoir un certain sens.
Excellent, Marty. Puis pendant qu'on parle de Seattle, il y a des gens qui disent pourquoi pas Shane Wright. Hey, boucler la boucle avec le Canadien. Ce serait tout un scénario. As-tu un autre nom à nous soumettre, Marty?
Ouais, donc je vais aller du côté des Rangers de New York. Je sais que son nom parfois sorti un petit peu dans les rumeurs, et regardant qu'est-ce qu'on a fait, Je me dis pratiquement, est-ce que c'est possible et tout ça? Je regarde un gars comme Vincent Trocheck. Bon, c'est sûr qu'il reste encore quand même 4 ans de contrat. C'est sûr que c'est pas nécessairement ce qui est le plus alléchant, mais bon, Trocheck est quand même encore très bon. C'est pas nécessairement le centre le plus gros gabarit, mais quelqu'un qui travaille très bien dans les deux sens. Quelqu'un qui est quand même pas mauvais défensivement. Quelqu'un qui a toujours été un peu dans l'ombre des Artemi Panarin, des gars comme ça. Puis même avec les Ducks d'Anaheim à l'époque, c'est ça, c'est quelqu'un à qui on voit beaucoup d'importance, justement, au niveau de son jeu dans les deux sens de la patinoire. Donc, tu sais, Trocheck, c'est peut-être pas la meilleure option par rapport à un baigneur. C'est sûr que là, on descend peut-être d'une coche un peu. Mais je pense que d'avoir quelqu'un qui est justement quand même assez intelligent, quelqu'un qui fait de bonnes lectures de jeu, quelqu'un qui est capable vraiment de rendre tout le monde meilleur autour de lui, et on le répète, là, je pense que le marché pour les deuxièmes joueurs de centre est peut-être un petit peu moins là. Mais je pense qu'avec un Trocheck, ça devient un gars qui est peut-être une certaine option.
Ça te fait-tu peur, une potentielle transaction avec les Rangers, dans le sens que Jeff Gorton et les Rangers, ça semble pas au beau fixe? On dirait que je le vois un peu moins, moi, ce fit-là naturel, parce qu'on sent là, que les deux organisations veulent pas nécessairement se parler. Là.
Ouais, ben là, ça, je pense que c'est clair un petit peu. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est... Tu sais, je pense que du côté des Canadiens, quelque part aussi, je pense que le deuxième joueur de centre, on aimerait avoir quelqu'un de peut-être un petit peu plus imposant qu'un Trocheck. C'est sûr que c'est pas le plus gros, mais à un moment donné, comme je le répète, il y a peut-être pas une tonne d'options. Je pense que du côté des Rangers, peut-être, et je dis très bien peut-être, qu'un gars comme Trocheck est peut-être disponible, que justement, ben c'est ça, le fait qu'on veut peut-être un peu rajeunir, qu'on veut changer quelques configurations du côté de l'équipe. On regarde ce qu'on a fait avec notamment Andrew Miller qui a été échangé, on rajoute Vladislav Gavrikov. Donc je me dis pourquoi pas, et justement, je pense que justement, comme deuxième joueur de centre, quelqu'un qui a un beau potentiel... pas un potentiel, mais quelqu'un qui est capable d'aider offensivement et qui a quand même un jeu quand même défensif, je me dis que ça vaut la peine, même si, je le répète, au niveau du gabarit, c'est peut-être pas ce qui est le plus idéal.
Trocheck avec une clause de 12 équipes à laquelle il ne souhaiterait pas être échangé à partir de maintenant. Donc ça, c'est un complément d'information.
Ouais, quand même 7 saisons de 20 buts, Trocheck. Ouais. Une de 30, dont les 4 dernières, le 21, 22, 25
Rarement
et
blessé.
26.
C'est un joueur là, durable, sur qui tu peux compter à
exact.
Tous les matchs.
Non, c'est vrai, ça serait une prise intéressante. Il y a des gens qui mentionnent sur le messagerie texte, à juste titre, là, peut-être que c'est un potentiel pour le prochain capitaine des Rangers, point possible, et le fait qu'il est droitier aussi.
Ouais, ça c'est important.
Ça. Mais ça reste que, écoute, on s'amuse, là. On n'est pas en train de dire Marty met 150 000 sur la table pour dire voici ce qui va arriver. Ce sont plus des cibles potentielles qui sont présentement à l'étude. Vas-y avec un autre nom, Marty.
Ouais, donc en tant que troisième nom, j'allais avec un autre nom qui est quand même pas mal dans les rumeurs et tout ça, peut-être qu'il coûterait un peu moins cher et tout ça. Je sais pas si ce serait nécessairement encore une fois le meilleur scénario pour les Canadiens, mais je regarde un gars comme Marco Rossi du côté du Wild du Minnesota. Je pense que c'est un gars qui joue plus gros que ce qu'on peut penser. C'est un gars qui est quand même, il est ça, 5 pieds 9 pouces, mais c'est quelqu'un qui est quand même très tenace le long des rampes, très efficace défensivement. On a vu sa progression, on a vu à quel point il avait peut-être des problèmes avec son coup de patin, il a complètement changé sa configuration au niveau du patinage et tout ça. Mais qu'elle était capable de se développer à ce niveau-là. Donc, tu sais, je me dis, bon, tu le places au temps 5 en tant que deuxième joueur de centre, t'as quelqu'un qui est efficace, qui est robuste, qui a peut-être un petit peu plus ce côté-là intense qu'un Nick Suzuki, par exemple. Donc, là, ça devient peut-être un complément. Là, encore une fois, je le dis, c'est peut-être pas une situation qui est super idéale. C'est certain que le gabarit peut faire peur. C'est certain que le prix ne convient peut-être pas nécessairement. Mais si tu regardes vraiment les options, il n'y en a pas une tonne. Et je pense que vraiment un Nick Suzuki, pas un Nick Suzuki, mais un Marco Rossi, à quelque part, t'amène quand même un élément dans les deux sens de la patinoire qui peut potentiellement être utile au centre.
Ça peut coûter quoi, Marco Rossi? Parce qu'on s'entend, là, t'sais, il y a deux saisons complètes, 21 buts, 24 buts, dont 60 points l'année passée. T'sais, il est sur une belle tangente, mais on a l'impression que Guérin va le laisser partir un peu comme n'importe quoi. On dirait qu'il veut s'en débarrasser de Marco Rossi. Ça pourrait être quoi le prix payé par le Canadien pour aller le chercher?
Ouais, là, je pense que c'est là le problème. C'est pourquoi je suis pas certain que ça va arriver, là. Tu sais, clairement, ce qu'on entend du côté du Wild du Minnesota, c'est qu'on veut un joueur établi. On veut quelqu'un qui va aider l'organisation immédiatement. On n'est pas prêt nécessairement à échanger Rossi contre des choix au repêchage. Il y a eu des offres pour ça. Je pense que c'est notamment les... Et là, je parle encore des rumeurs, là. Je pense que c'est arrivé du côté des Canucks de Vancouver. Mais, donc, tu sais, qu'est-ce que ça pourrait coûter? Peut-être un haut choix au repêchage, peut-être un excellent espoir en même temps, mais je le répète, je pense que on veut des joueurs établis, là, malheureusement, c'est peut-être là que ça va moins... ça cadre moins avec ce que les Canadiens veulent faire. Est-ce que tu veux changer vraiment un Cole Caulfield? Ben là, je pense que la réponse, c'est quand même non.
Ouais, on s'entend.
Même si... C'est ça. Même si, à quelque part, c'est un peu dans les mêmes horizons. Par contre, je pense que Rossi, sur le marché présentement, coûte moins cher que ce qu'on peut penser. Parce que, justement, son gabarit fait en sorte qu'on a entendu beaucoup de rumeurs à travers la Ligue comme quoi, ben, il était peut-être pas alléchant, justement, le fait de, ben, de vouloir un centre de 5 pieds 9 pouces. C'est peut-être un peu moins tentant. Donc, à quelque part, j'ai l'impression que sa valeur est moindre.
Disons. Ouais, 5 pieds 9 pouces, mais comme tu l'as mentionné, il joue pas mal plus gros que son gabarit. Puis ça, c'est à prendre en considération. Marty, le temps file. As-tu un petit dernier pour nous?
Ouais, un petit dernier. Écoute, encore une fois, je sais pas si ça arriverait. Et je me rabats vraiment vers des vétérans. Moi, personnellement, je pense que le problème de deuxième joueur de centre peut se régler via le repêchage, via le futur un petit peu. Donc, je vais un petit peu avec... Je vais avec un gars comme Ryan O'Reilly, par exemple. Est-ce que Ryan O'Reilly, tu sais, reste 2 ans de contrat? Ça, je pense que au niveau salarial, au niveau... Il gagne simplement 4 500 000 $. Je pense qu'au niveau du budget, je pense que pour Kent Hughes, c'est parfait. C'est un vétéran qui peut aller aider les jeunes, qui a gagné la Coupe Stanley, qui est dur à affronter, qui est excellent défensivement. Donc, vraiment, pour tout le monde autour de lui, je pense que ça rend les choses un peu plus faciles. Et bon, il a ralenti énormément Ryan O'Reilly, mais justement, quand tu parles d'un deuxième joueur de centre, quelqu'un qui est capable de faire un peu tout, capable de t'apporter encore un petit peu d'attaque et... Encore une fois, je doute un peu. J'ai l'impression que les prédateurs veulent se dire on est capable de retourner parmi les prétendants. On est capable d'avoir une. C'était simplement une mauvaise année l'an dernier. C'est pas pour rien qu'on a ajouté, par exemple, des gars comme Eric Haller. Mais je me dis, s'il y avait possibilité, par exemple, t'es capable de donner, je sais pas, justement, des espoirs quand même intéressants, de donner un choix de premier tour, des choses comme ça, ben, je me dis, ben, peut-être qu'un Ryan O'Reilly devient une certaine option. Il est quand même peut-être un peu plus imposant qu'un Nick Suzuki aussi.
Ouais, là, mais tu sais, il y a 34. Il y a ça à considérer. Est-ce qu'on est prêt vraiment à se déshabiller pour aller chercher un actif un peu plus vieux? Vraiment aller chercher une patch? Mais ça démontre que le Canadien serait plus, sans négliger le long terme, on focuserait beaucoup sur la prochaine saison. On aurait de grandes aspirations pour la prochaine saison si jamais on fait l'acquisition de Ryan O'Reilly. Merci, Marty, d'être prêté au jeu. Super intéressant.
Salut, Marty.
Ça fait plaisir, les gars.